Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui poursuit sa réflexion consacrée au djihadisme en s'intéressant ce soir à l'attrait de l'expérience du combat. Et cette réflexion se fera en compagnie de Romain Huette, anthropologue. Le plus souvent, nous abordons le phénomène djihadiste depuis chez nous, en cherchant les racines, les causes, sans peut-être prendre suffisamment en considération l'expérience du combat et l'attrait qu'il peut exercer sur des jeunes hommes. Leur engagement s'explique aussi par le goût de l'aventure, par la volonté de se battre, la volonté de connaître une situation de guerre. D'où l'importance, pour notre réflexion, d'ajouter ce terrain si particulier du combat au tableau général du djihadisme. Comment en effet prendre en charge un revenant sans imaginer seulement ce qu'il a pu vivre sur le terrain. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de recevoir ce soir un ethnologue un peu atypique qui est allé partager la vie des combattants en Syrie, non pas de Daesh, mais de diverses milices, il nous en dira un peu plus, qui pullulaient ces dernières années en Syrie. Romain Huette, bonsoir.
Bonsoir, Antoine Garapon.
Alors, je rappelle que vous êtes maître de conférence et que vous enseignez également à la Maison des sciences de l'homme. Expliquez-nous votre démarche. Comment vous avez eu l'idée de partir sur le terrain?
Alors souvent, quand on fait de la recherche, on a toujours l'habitude que tout a été pensé, réfléchi, médité largement avant. Ce n'était pas du tout le cas. En 2012, quand il y a les révolutions dans le monde arabe, je suis intimement convaincu avec quelques collègues qu'il se passe un basculement majeur, en fait, d'un point de vue géopolitique. Et je décide, à la base, de monter une cellule d'écoute psychologique dans un camp de réfugiés en Turquie pour m'approcher, tout simplement, un peu plus près du contexte syrien. Et puis, il se trouve que pour des raisons un peu obscures, dès la fin de la première journée, eh bien, on a été expulsé du camp, donc j'ai pas pu mettre en place ce projet. Et je tombe sur des combattants de l'armée libre qui étaient dehors. On a discuté un petit peu. J'aurais exposé mon idée, qui était de travailler sur la question de la souffrance. Ils m'ont dit, tu veux voir la souffrance, t'as qu'à venir avec nous. Je suis monté dans sa voiture et puis l'aventure a commencé ici. Et je me suis ouvert en fait à un monde que j'ignorais complètement. Et à travers leurs yeux, j'ai commencé à découvrir leur expérience révolutionnaire, qui est devenue une expérience guerrière, et je suis revenu après parce que c'est devenu en fait une question de recherche pour moi qui m'a animé entièrement. C'était une préoccupation intellectuelle, mais aussi une préoccupation sensible.
Oui, sensible, j'imagine, parce que vous êtes rapproché du front, à tout cas de le dire. Vous étiez très proche, vous racontez des moments de bombardement où les avions de l'armée syrienne bombardent les camps dans lesquels vous trouvez, et vous expliquez d'ailleurs que se trouver comme ça blotti avec d'autres hommes sous un pistachier pour pas se faire dégommer, ça crée des liens.
Ouais, ça crée des liens extrêmement extrêmement forts. Faut bien imaginer que il y a déjà une distance quand même à la base qui me sépare d'eux. Déjà une distance de par ma nationalité, une distance de par mon origine. Mais
oui, effectivement... puis vous n'avez pas vécu vous n'avez pas vécu ce qui revient très souvent dans ce que vous dites et dans leur discours, l'humiliation. Ils ont été poussés à bout. Ils avaient le sentiment d'être à bout sous le régime de Bachar al-Assad.
Exactement. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que dès 2012. Les gens parlent énormément, les combattants ne cessaient de me parler, de me raconter effectivement cette expérience d'une vie dont ils avaient l'impression qu'elle était concrètement injustifiée, qu'elle était humiliée, qu'elle était oppressée. Très clairement, j'étais assez convaincu dès le départ qu'il s'agissait là bien d'une expérience révolutionnaire et qui est passée bien sûr par la voie armée au bout d'un certain temps.
Qui commence par faire des manifs et qui commence par la trouille. Ils ont peur parce qu'il y a des gens qui sont étudiants en pharmacie, qui sont étudiants à Damas, c'est des jeunes classe moyenne. Et la première chose qu'ils font, c'est aller dans des manifs.
Oui, exactement. Et à chaque fois, les récits concordaient toujours. C'est-à-dire que ils me racontaient que leurs parents ne voulaient surtout pas qu'ils aillent manifester, donc ils ne devaient pas le dire à leurs parents. Et c'était un petit peu quelque chose d'un petit peu secret. On dit toujours que les murs ont des oreilles, donc on n'en parle pas. Et puis donc, ils y allaient parfois de manière assez solitaire dans ces manifestations. Et puis quand ils arrivaient, non seulement ils voyaient beaucoup de monde, mais ils voyaient aussi plein de leurs camarades à qui ils ne parlaient pas, qui se retrouvaient ici. Et donc, ils se retrouvaient avec beaucoup plus de monde qu'ils ne le pensaient, y compris des connaissances dont ils ignoraient complètement qu'elles allaient allait se trouver effectivement dans ces manifestations.
Mais on est dans la phase révolutionnaire, pour suivre votre opposition entre le révolutionnaire et le guerrier, une phase révolutionnaire dans laquelle il y a beaucoup d'espoir de créer un monde nouveau, un pays nouveau, de changer les mauvaises habitudes.
Complètement. Mon premier voyage, qui est en juillet 2012, je suis moi-même exalté, en fait, à force d'entendre leur propre exaltation. Ils utilisent toujours du subjonctif pour parler des lendemains. Je me souviens d'ailleurs d'un coup de téléphone que je reçois au mois de décembre d'un des combattants de l'armée syrienne libre du côté d'Alep, qui me dit, viens vite Romain, on va aller à Damas parce que Bachar al-Assad est dans un avion pour la Russie, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait l'espoir, en fait, d'une victoire assez imminente. On est arrivé une semaine plus tard et c'était beaucoup plus tragique que ça ne l'était auparavant, et qu'effectivement, progressivement, il y a eu une érosion de cette puissance révolutionnaire.
Et alors, vous allez dans des séjours de plusieurs semaines quand même, dans plusieurs brigades, et surtout à deux époques différentes. Et ça va vous permettre de voir que le moral va changer complètement. Entre le début, les premières brigades, on y croit, la victoire est au bout, et dans quelques semaines, et on se bat pour quelque chose, et puis un sentiment très très différent ensuite de désespoir, et de dire ce qu'il y a au bout, c'est la tombe, c'est la mort.
Ouais, et concrètement, c'est ce qui m'a énormément marqué, parce que effectivement, donc l'espoir révolutionnaire en 2012 est assez évident, et en 2014, j'y retourne avec mon collègue Laurent Lhermitte pour faire un film, et on va dans une autre brigade, parce qu'il faut aussi reconnaître que les contacts qu'on avait en 2012, beaucoup d'entre eux en fait sont décédés, beaucoup d'entre eux ont dû parfois quitter le pays. Donc on change de brigade. On va du côté de Hama, dans une brigade qui est affiliée au Front islamique. Et effectivement, à ce moment-là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sombre. On est dans quelque chose qui est beaucoup plus désespéré, dans lequel on parle beaucoup moins des horizons victorieux, dans lequel on parle beaucoup moins des lendemains, dans lequel finalement, j'ai eu la sensation que beaucoup de ces combattants, en fait, n'attendaient plus véritablement grand-chose de la guerre. Et en 2018... c'est encore tout à fait autre chose, parce qu'en 2018, on leur a volé leur propre combat. Alors là, j'étais dans une brigade qui était complètement différente, qui est une brigade arabe affiliée aux Kurdes, et qui, dans ce cas de figure, en fait, la guerre, finalement, le fait qu'elle continue, ça devenait quasiment une nécessité, parce que dois-je faire, en fait, après autant d'années de guerre, que m'est-il permis de faire? Et donc, je continue le combat.
Comme si la logique de la violence et la logique des armes avait aspiré les idéaux révolutionnaires.
Là, ici, je ne sais pas si c'est tant la logique de la violence ou la logique des armes que, au bout d'un certain temps, en fait, l'impossibilité de trouver une alternative, en fait, à cela. C'est-à-dire que comment vous faites pour retourner dans la vie civile quand vous avez vécu tant d'années?
On va revenir sur la vie civile, qui est bien sûr un immense problème, mais d'abord, quand même, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on passe d'un manifestant, d'un étudiant en géographie à l'université de Damas, qui manifeste avec et qui retrouve ses copains et ses copines, comment on en fait un combat? Qui n'est pas très bien armé, qui doit prendre des villages, qui rentre dans des villes qui viennent d'être libérées, entre guillemets, et qui vit, d'ailleurs c'est très intéressant parce que ça vous frappe beaucoup, Romain Huette, qui vit dans un paysage absolument désolé de ruines, de cendres, de sang.
Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Il y a une question qui est effectivement moi celle que je me pose encore aujourd'hui, à laquelle j'ai pas tout à fait répondu, qui est de savoir comment en fait on devient un combattant, comment par quel processus on passe pour le devenir. Ce qui est certain, c'est que la plupart des combattants que j'ai pu rencontrer vont toujours naturaliser ou rendre évident leur passage à l'acte. C'est-à-dire que à force d'être opprimé, d'être tué, d'être réprimé dans l'ensemble des manifestations, au bout d'un certain temps, en fait, les gens vont progressivement s'organiser et crescendo, ça va monter en tension, et on va banaliser, on va rendre évident plutôt le passage aux armes. Je me souviens d'une anecdote qui pour moi assez importante. Je leur posais une question très très idiote parfois à ces combattants, parce que je voulais saisir ce moment où pour la première fois on prend les armes et on attaque.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui.
Et je leur posais cette question un petit peu idiote, et puis à chaque fois en fait j'avais jamais de réponse en fait à cette question, comme si c'était non seulement une question déplacée, mais une question qui se pose pas, qui se réfléchit plus,
c'est ça.
Et pas quoi, exactement.
Ouais. Oui, mais vous dites quand même, ils avaient besoin de s'accoutumer à l'horreur. Et moi, je comprends très bien cela. vivant dans un contexte dans lequel l'horreur a disparu, sauf sur Internet, sauf sur les films gore, mais on connaît pas l'horreur comme eux la connaissent, comme eux la côtoient, comme eux la vivent. Et il y a une sorte de, comment dirais-je, de désensibilisation. Il y a une phase de désensibilisation qui fait que on réagit plus ensuite normalement.
Bah, effectivement, au bout d'un certain temps, et plus la guerre avançait, plus effectivement on remarque des atrocités parfois beaucoup plus fortes qu'elles ne le sont en fait au début. Où je me souviens dans les premiers temps, quand on était arrivé en 2012, les combattants, quand ils avaient un prisonnier par exemple, ils attachaient beaucoup d'importance à le juger parce qu'il fallait montrer une justice alternative, une justice qui allait remplacer celle de
donc ils faisaient un petit tribunal.
Ouais, il y avait un petit tribunal, etc. Puis quelques mois plus tard, je les voyais plutôt les yeux bandés. Et allongé contre un mur, et puis vous imaginez bien que la suite après on monte encore un peu plus en horreur, ce qui est
jusqu'à l'acharnement sur le corps de l'ennemi quand même. Vous assistez à cela
si. Alors jusqu'à des scènes effectivement de où on peut poser en selfie devant un monticule de tête et donc jouer avec le corps, quoi. C'est-à-dire ne pas se contenter d'avoir tué son ennemi, mais de jouer avec ce corps. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très important, c'est aussi l'impuissance dans laquelle ils ont été placés depuis le début. Il y a une chose qui m'a toujours impressionné quand j'étais en Syrie, c'est l'impuissance militaire, la symétrie militaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez votre temps à regarder, à scruter le ciel, à entendre les hélicoptères et les avions qui viennent vous attaquer. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire quand ils arrivent? Pas grand-chose. Je me souviens d'une scène qui était très angoissée, pour moi en tout cas, d'un point de vue très égoïste. On nous annonçait par le talkie-walkie que il y avait deux ou trois avions plus un hélicoptère qui allait arriver de Hama. Et ça mettait 5 minutes pour venir. Tout le monde continue à prendre son thé très tranquillement. Je vois aucune scène d'angoisse, de tiraillement de la part
Mais vous dites ça.
Moi, j'étais pas bien. Et donc je leur dis, mais là on fait quoi concrètement? Est-ce qu'on continue à boire le thé? Bon, je l'appréciais moyen ce thé à ce moment-là. Et puis il me jette un caillou. Il me dit, quand tu le vois, tu lances le caillou sur l'avion. Cette scène-là, elle m'a énormément frappé parce que elle montrait cette espèce d'impuissance. Et votre ennemi est toujours abstrait. Vous le voyez pas, en fait. Vous le voyez jamais. Moi, je n'ai jamais vu un homme de Bachar el-Assad. Oui. Il vaut mieux pas le voir.
Il y a un moment, vous dites quand même, Romain Huet, ils disent, au début, c'est nos cousins, on n'a pas envie de les tuer parce que c'est nos cousins. Sous-entendu, parce que c'est des villages assez proches, donc ils ont des gens de leur famille. Puis après, on est obligé, puis là, ça devient des ennemis.
Mais je pense qu'il y a évidemment aucun plaisir, aucune passion en fait dans les premiers moments à tuer. Et au bout d'un autre moment en fait, il peut y avoir, et on va nouer un rapport tout autre en fait à l'ennemi, et donc on va justifier beaucoup plus facilement sa mise à mort et parfois l'acharnement à le tuer.
Alors il y a beaucoup de littérature, je pense à Ernst Jünger, beaucoup plus d'ailleurs du côté allemand, quoi. C'est peut-être très très partial ce que je dis, mais on a l'impression que les récits de 14, ceux de 14 de Genevoix, Roland d'Orgelès, sont pas les mêmes que ce qu'on trouve en Allemagne. Oui, bon. Mais en Allemagne, il y a ces Ernst Jünger. Mais on est dans un contexte très différent, Romain Huet, parce que là, il y a deux armées. Ils portent un uniforme, ils ont un chef, ils ont des ordres, des commandements. Il faut se déplacer, il faut dormir, il faut occuper la tranchée. Alors que les brigades avec lesquelles dont vous partagez la vie, c'est beaucoup moins organisé. Et puis, il n'y a pas eu cette préparation à la confrontation, à la mort, de la mort donnée ou la mort reçue, d'ailleurs.
Non, c'est une préparation qui est extrêmement rapide, qui se fait au gré quasiment d'expériences, mais presque improvisées. Hein. Donc effectivement, c'est un moment très rapide et c'est effectivement très désorganisé, au sens où beaucoup de combattants que je rencontrais changeaient d'une brigade à une autre assez facilement, ce qui me laissait penser que ils étaient beaucoup moins attachés à l'idée que portait la brigade, plutôt en fait que à leur connaissance à l'intérieur de la brigade. Est-ce qu'il y a un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un du coin que l'on connaît? Et surtout, bien sûr, quelle est la capacité de la brigade à offrir
l'armement,
le matériel pour pouvoir effectivement combattre et vous assurer d'être sur une première ligne du front, parce que
alors c'est ça. En fait, quand ils occupent un village ou une ville, il faut l'occuper, donc il faut organiser, il faut contrôler l'ordre public. Hein. D'ailleurs, c'était pareil pour Daesh. Bon, mais ça les intéresse pas tellement, vos gars.
Bah si, un petit peu. Enfin, j'en parle un peu moins parce que c'était peut-être pas la question prioritaire que je m'étais posée. Mais par exemple, quand la première fois qu'on arrive, alors que Azaz vient d'être la ville d'Azaz vient d'être libérée. Et là, c'était génial comme moment parce qu'on les voyait en fait à la fois nettoyer la ville et on les voyait en fait essayer de reconstruire une administration et qui passait déjà par la première chose qu'ils faisaient, c'est de repeindre les murs de l'administration, des bureaux, etc. Et on a assisté à l'époque à une scène très très rigolote. C'est que il y a le chef du poste de douane de la ville d'Azaz qui envoie un de ses collègues pour aller faire un tampon en Turquie pour avoir le premier tampon de l'armée syrienne libre. Il revient une heure plus tard, il revient quelques temps plus tard et en fait il s'est planté quoi. Il a oublié une étoile sur le drapeau et donc notre premier passeport d'ailleurs est tamponné avec le mauvais drapeau de la Syrie libre. Mais c'est une petite anecdote pour essayer de dire effectivement que on s'improvisait à faire de la gouvernance, à gouverner en fait des hommes, à gouverner des villes. Ça suppose des compétences aussi quand même assez particulières.
Bien sûr. Oui, ben, ce n'est plus du tout les compétences du combat. Mais ce qui est intéressant, c'est que vivre dans des ruines, vivre dans une ville bombardée, vous dites à un moment, et vous citez d'ailleurs Michael Fessel là-dessus, c'est que ça produit une crise radicale du rapport au réel. Quand il n'y a que des ruines, quand tout est défoncé, quand il y a de la cendre et du sang partout, qu'il n'y a plus une rue de propre, la possibilité de donner un sens au monde disparaît. Ouais. Comme si le monde devient irracontable quand il est détruit à ce point.
C'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Je l'avais rencontré avec Michael Fossel, puis bien sûr avec Hannah Arendt. Quand on pense que la guerre est une forme d'effondrement du monde, on assiste en fait à un effondrement concret de ce monde. Et cet effondrement, il est déjà matériel. Il est déjà dans les paysages où il n'y a plus aucune assurance sur la stabilité de l'édifice matériel du monde. Et une maison dans laquelle vous dormez un jour, le lendemain, vous apprenez qu'elle a été complètement rasée, qu'elle a été complètement détruite. La stratégie de Bachar al-Assad étant justement de pilonner en fait ces villes de telle sorte que les destructions matérielles sont extrêmement importantes. Effectivement, quand on n'a pas quand on perd en fait ces repères, cette évidence des paysages, cette évidence de la matérialité des paysages, forcément, ça a des conséquences sur la vie subjective, ça a des conséquences
bien sûr,
sur la pensée.
Mais et donc, Romain Huet, ce qui est très intéressant pour les gens qui vivent dans un cadre ordinaire, qui vivent dans une ville où il n'y a pas de ruines, où il n'y a pas de destruction, quand le soleil illumine les rues, c'est l'alternance la nuit. Là, il n'y a plus de jour et de nuit dans le combat. Le feu peut intervenir à toute heure. Nous n'avons plus ces fondements architecturaux de la normalité, finalement, on pourrait dire.
Oui, complètement. C'est sûr que ce que vous dites, Antoine Garapon, c'est vraiment juste au sens où je me souviens d'un épisode aussi dans lequel j'étais un petit peu maladroit, mais j'étais en France, j'étais à Paris, à côté de la gare Montparnasse, et je discutais avec un combattant de Hama, et il me dit « Vas-y, envoie-moi une photo de là où t'es ». Et je lui envoie une photo depuis la gare où on voit des terrasses de café. Et je lui envoie et il me fait plein de signes tristes dans ses réponses. C'était par
lui,
par WhatsApp.
Était sur le terrain.
Voilà, lui était sur le terrain. Il était en Syrie. Il me fait des réponses extrêmement tristes. Et puis il me confie que ça lui manque cette vie-là, cette vie du café. Et en fait, il avait oublié effectivement l'existence la vie en paix était aussi une ville dans laquelle effectivement on peut s'asseoir sur une terrasse assez tranquillement.
Alors ça me rappelle un témoignage personnel que j'ai eu d'un collègue qui était un juge israélien et qui son service militaire, il était dans l'opération au Liban dans le feu du bombardement et il devait organiser, participer à ce bombardement et en cherchant à capter l'onde de Tsahal, il se trompe et il tombe sur une radio qui met de la musique américaine ou une radio et il est dans le feu de l'action et en fait il entend du jazz ou je sais pas quoi, une musique du monde ordinaire et ça le bouleverse et ça l'empêche et il dit mais j'ai eu un sentiment que je ne pouvais plus ce monde-là exister, un monde qui ne soit pas fait que de feu et de bombardement et de mort possible, me plonger dans un temps qui devenait insupportable.
Ouais, complètement, c'est la guerre suppose, c'est vrai, une temporalité extrêmement particulière, j'appelle ça un temps annulé parce que les jours d'autrefois, on n'y songe pas beaucoup, et quand on y songe, c'est souvent d'ailleurs avec beaucoup de nostalgie, et il ne faut pas trop y songer, sans quoi ça va produire des tiraillements intérieurs, ça va...
Ils n'arrivent pas à raconter leur vie d'avant, d'ailleurs, vos combattants, Romain Huet.
Assez peu, disons qu'ils pourront raconter assez facilement qu'est-ce qui les a poussés à se redresser, à se lever, à combattre contre Bachar al-Assad. Par contre, on ne parle pas de la vie ordinaire, de la vie banale, de quoi elle était composée, de quoi elle était faite, parce que c'est une vie qu'on oublie progressivement. Mais encore une fois, si on y pense un petit peu trop...
Mais ce qui est intéressant dans nos djihadistes à nous, c'est qu'ils font le chemin en sens inverse. Ils tuent les gens qui sont attablés à des cafés le 13 novembre 2015 pour rejoindre un théâtre de guerre. C'est quand même paradoxal, ce chemin, ne serait-ce que ce chemin imaginé pour la plupart d'entre eux. Oui, ou est-ce qu'ils reviennent de Syrie pour tuer ce mode de vie, Romain Huet?
Je sais pas, c'est une question qui est compliquée, parce que déjà, bon, moi j'ai rencontré assez peu de, enfin j'ai rencontré
très
peu de personnes qui étaient dans cette perspective-là. Disons que moi c'était des Syriens qui faisaient une guerre dans leur pays, c'était assez différent. Je sais pas si on peut en déduire que là ici en fait on a des gens qui viennent tuer ce mode de vie. Oui, alors effectivement ils ont pris en 2015 ils ont pris des scènes en fait de la vie quotidienne, mais on pourrait supposer en tout cas que
mal à l'aise avec ça. C'est ça, oui. Ouais. Vous n'arrivez pas à assimiler, les deux scènes, celle du Bataclan et celle de ce que vous avez vu.
Non, parce qu'il y en a une, dans laquelle on est enfoncé dans une guerre, dans des motifs qui sont quand même différents, et donc du coup, on peut vouloir atteindre un espace public, on peut vouloir atteindre des formes de vie, mais je suis pas sûr qu'en fait on est exactement dans le même processus que celui dont on vient de parler.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec vous, Romain Huet, pour parler de l'expérience, du vécu subjectif de la guerre, cette guerre asymétrique qui a eu lieu en Syrie de la part de brigades islamistes, mais qui combattaient du côté de l'armée syrienne libre. Qu'est-ce que vous nous avez fait écouter là?
Alors ça c'est une chanson, vous voyez, quand je l'entends, j'ai tendance à sourire parce que c'est une chanson qu'on entendait absolument partout, à la fois dans toutes les voitures, on chantait régulièrement qu'on chantait aussi pendant chaque vendredi soir pendant les manifestations. Donc j'ai pu faire une manifestation du côté de, enfin pas très loin d'Alep, et où tout le monde chantait cette chanson avec beaucoup de ferveur. Et donc l'artiste en question d'ailleurs a été égorgé en 2011 par le régime de Bachar al-Assad. Donc connu une fin assez terrible, est devenu un peu, je pense, une figure artistique emblématique de la révolution. Et donc c'est un chant révolutionnaire, évidemment, contre Bachar al-Assad.
C'est ça.
Connu de tous.
Bien sûr. Mais alors, revenons sur l'expérience, ce présent singulier d'un homme qui se trouve au combat. D'un homme qui se trouve au combat et qui vit avec la mort, c'est-à-dire la mort est omniprésente, elle peut surgir à tout moment. Ça donne une, comment dirais-je, un rapport au monde assez particulier, ça, Romain Huette, non ?
Exactement. La mort devient sinistrement un mode de vie, c'est-à-dire qu'elle est tellement banalisée, elle est tellement présente, elle est tellement fréquente qu'on est obligé de s'accommoder à cette mort à venir. On observait par exemple que dans les cimetières, on creusait déjà les tombes avant de les...
Avant même la mort.
Avant même, exactement, avant même la mort. Et on peut supposer que, évidemment, ça a des effets extrêmement forts sur le rapport que l'individu peut entretenir à l'égard de lui-même et aussi, bien sûr, à l'égard des autres. Même pendant les moments d'enterrement, on a assisté à beaucoup d'enterrements sur place. Et même pendant les enterrements, c'est-à-dire au moment où ils étaient en train d'enterrer leur mort, eh bien, on avait des bombardements sur le lieu de l'enterrement. Vous imaginez que ici, ce qui a été suspendu, ils sont privés également du moment de recueillement quand ils doivent enterrer leur propre mort.
Et ce temps de ce temps suspendu, qui est le temps de l'enterrement, qui est ce temps finalement d'interface en quelque sorte entre la vie et la mort, et qui a besoin de cette réassurance collective rituelle, ce moment-là est supprimé aussi parce que la guerre se rappelle à tout le monde.
Exactement, et c'est ce qui ont fait d'ailleurs, je pense, une particularité en Syrie, où c'était en tout cas dans les zones rebelles, il y avait des attaques extrêmement fortes, extrêmement régulières et qui ne laissaient pas beaucoup de répit aux individus. Alors en même temps, bon, il faut aussi dire que il y a une expérience extrêmement importante de l'ennui dans la guerre.
Hein. C'est le paradoxe, une très grande monotonie, Romain Huette.
Exactement. En fait, c'est une alternance de rythme, si bien que ça en fait un temps vraiment très particulier. C'est-à-dire que vous avez à la fois un temps dans lequel on s'ennuie beaucoup. Moi, je dirais que 90%, on est sur notre portable, en train de jouer à Candy Crush ou à d'autres ou à d'autres jeux. Je me rappelle qu'on avait joué à des jeux vidéo, des jeux de football, des choses comme ça. On tuait le temps. Et puis d'un coup, soudainement, en fait, ce temps-là va complètement évoluer, va complètement être rompu, changé. Et là, d'un coup,
sans transition.
Il n'y a aucune transition, absolument aucune.
Oui. Ça me faisait penser à vous lire, me fait penser au livre de Peter Englund sur 20 destins de la Grande Guerre, et le sous-titre qui est le plus important à mon avis, c'est la beauté et la douleur des combats, parce que c'est ça, c'est les deux choses. Il y a un attrait du combat et bien sûr la douleur, et il y a ce contraste qui est d'ailleurs très bien décrit par Peter Englund, où il dit il y a un marin de Brême qui passe toute la guerre 14 dans la marine de haute mer allemande et qui ne quittera jamais le port.
Oui, c'est ça. C'est. Je pense qu'on a beaucoup écrit, on a beaucoup raconté l'ardeur ou le vertige qu'il y a à combattre pour plein de raisons différentes, comme le fait de mettre sa vie en péril au nom d'idées, comme le fait de découvrir en soi en fait un certain nombre de vertus, de courage, etc. Mais ce dont on parle beaucoup moins, c'est le fait qu'il n'y a pas que cet enthousiasme-là, qu'il y a aussi une expérience de l'ennui, aussi une expérience de l'immobilité. C'est-à-dire que les horizons sont bouchés aussi quand vous combattez, au sens où vous pouvez attendre, attendre extrêmement, extrêmement longtemps. Et surtout, il y a quelque chose. Je me souviens d'une fois d'un collègue qui était venu avec moi sur le terrain, et cette fois-ci, il n'y avait pas de bombardement. Il y avait très peu de combats, voire aucun. Et il me dit, mais elle est où la guerre? Elle est où la guerre? Et j'arrête pas de lui dire, mais la guerre, elle est tout autour de toi, dans les rapports que tu as avec les individus, dans les rapports sociaux que les gens ont entre les uns et les autres. Et c'est ça aussi, cette dimension de la guerre qui est un peu moins visible, un peu moins évidente, qui est des rapports altérés, c'est-à-dire des rapports qui se dissolvent entre les uns et les autres.
Qui se dissolvent et qui s'intensifient en même temps.
Alors oui, dans votre brigade, évidemment, il s'intensifie énormément parce que vous vivez en promiscuité les uns avec les autres, vous partagez des temps extrêmement importants, vos vies sont toujours placées dans les mains de l'autre et des formes d'interdépendance. Il y a des formes d'interdépendance extrêmement importantes. Et puis il y a aussi quand même la méfiance qui est omniprésente de partout, parce que vous pouvez être trahi par n'importe qui, parce que plus on avance, plus on s'enfonce dans la guerre, plus il y a des rapports sociaux qui sont beaucoup plus viciés, dans lesquels vous d'être toujours soupçonné d'éventuellement d'être possiblement un traître, d'être possiblement...
Vous remarquez, Romain Huette, votre analyse de ce climat, de ce temps si particulier de la guerre, vous dites, et vous vous référez d'ailleurs à Albert Camus dans L'homme révolté, que l'engagement radical pour une cause, en l'occurrence la guerre, incline à une lecture religieuse des phénomènes sociaux et politiques, une lecture métaphysique, on pourrait dire.
Oui, alors disons que en ce qui concerne le registre religieux, moi je pense que c'est un registre qui est devenu de plus en plus évident, de plus en plus fort, à mesure que le registre révolutionnaire s'est épuisé, s'est fatigué. C'est-à-dire que ici, pour moi, le registre religieux venait combler la fatigue révolutionnaire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, il venait refaire sens là où le sens initial commençait à.
Est-ce que les objets, est-ce que les armes, quoi, c'est un peu ce que disait d'ailleurs un grand intellectuel libanais sur la guerre du Liban, Samir Frangieh, où Samir Frangieh disait au début de la guerre. Tout le monde croyait gagner, les Palestiniens, les forces libanaises, les Druzes, etc. Et puis finalement, tout le monde a perdu parce qu'on s'est laissé aspirer par la violence. La violence exige tout d'un homme au combat, jusqu'à oublier peut-être même les motifs pour lesquels il est entré dans ce combat.
Je suis pas tout très à l'aise avec cette idée parce qu'on fait de la violence un espèce de fétiche. Je suis pas complètement sûr de cela. Moi, je pense que les combattants avaient une certaine maîtrise de ce qu'ils étaient en train de faire. Après, évidemment, je pense que en 2012, ils ne s'attendaient évidemment pas à l'histoire qui allait se présenter à eux. D'ailleurs, probablement, peut-être que ça les aurait conduits à agir tout à fait autrement. Sauf que ce que j'essaie de dire tout simplement, c'est que les justifications, la façon dont on va donner sens à son engagement, va évoluer au fur et à mesure. Mais je ne crois pas, en fait, que on reste enfermé dans la guerre par une espèce, comme si on était complètement saisi entièrement et subjectivement par la violence.
Vous dites quand même que, quand vous revenez 2016, d'avoir ce côté destinal de la mort, a dit Heidegger, c'est-à-dire cet être pour la mort, on pourrait dire, au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire qu'on va tous mourir et on doit l'accepter. Est beaucoup plus présent qu'en 2014.
Mais quand vous faites la guerre, il y a un coût subjectif qui est extrêmement important. C'est-à-dire que vous vous êtes engagé en 2011, 2012, vous êtes en 2017 ou en 2018, vous êtes encore enlisé dans un certain nombre de situations, enfin vous êtes encore enlisé dans la guerre, les horizons d'une victoire apparaissent absolument réduits. Comment vous faites pour retourner dans une vie normale? Comment on fait pour retourner dans une vie tout à fait ordinaire? C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est revenir sur un engagement initial.
C'est se renier.
Il y a de cela d'une certaine manière. Il y a probablement quelque chose de ce sens-là. Et puis il y a aussi, en fait, d'un point de vue complètement matériel, c'est comment vous faites pour retourner dans une vie civile, dans un monde assez impraticable, dans lequel, en fait, au niveau financier, par exemple, au niveau matériel, après avoir été combattant, vous faites quoi? Vous allez rouvrir un magasin dans lequel la vie civile est extrêmement difficile à mener, dans une pauvreté parfois extrêmement importante. Là, les brigades sont encore des lieux où vous êtes nourri, vous êtes logé, dans lequel vous avez une fonction, dans lequel vous avez également des conditions matérielles d'existence à peu près et de la dignité assurée. Quoi. Alors que dans la vie civile est extrêmement, extrêmement difficile. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a
bien
à
sûr,
la fois un coût subjectif
sûr,
et puis un
sûr,
coût matériel aussi
sûr,
dans la
oui,
sortie de la violence.
Bien sûr. Et puis, d'ailleurs, ça, à vous lire, on pense à toutes les générations de nos pères, de nos grands-pères qui ont vécu la guerre, je pense surtout à ceux de 14, et qui ont dû revenir à une vie normale après quatre ans de cet univers que vous nous décrivez, Romain Huette.
Oui, j'ai évidemment du mal à me l'imaginer parce que je l'ai pas vécu à la façon dont les combattants la vivent. C'est Walter Benjamin qui disait ça. Les combattants reviennent du front sans avoir plus aucune chose à raconter, plus aucun récit à produire. C'est-à-dire avec une expérience incommunicable.
Impartageable.
Impartageable, exactement. Et évidemment, quand vous revenez, mais même, je veux dire, ma toute petite expérience me montre aussi qu'il est très rare que l'on puisse raconter ce qu'on a vu, qu'on puisse véritablement discuter en profondeur de cette expérience-là, parce que la guerre est toujours une expérience un peu quasi mystique, quoi, quelque chose à la fois dont on a envie de parler, qui soulève en nous parfois un peu à la fois des sentiments d'indignation, d'horreur, de dégoût,
et
en même temps aussi
d'attrait. Et est-ce que c'est pas de plus en plus difficile d'en parler, Romain Huette, pour un sociologue aujourd'hui, ou ben pour les, je pense aux jeunes Français, notamment ceux qui sont attirés par l'expérience syrienne ou qui étaient attirés par l'expérience syrienne, c'est-à-dire que ça a totalement déserté notre horizon. C'est-à-dire que pendant des siècles, en France, mais c'était vrai de beaucoup de sociétés, la guerre que vous décrivez, la guerre que vous avez partagée, que vous avez vécue, c'était quelque chose que beaucoup de gens étaient appelés à connaître. Un exemple de Montaigne, par exemple. Montaigne s'est battu sur les champs de bataille contre les protestants. C'était quelque chose qui était une expérience qui faisait partie du répertoire anthropologique pour les hommes, pour les femmes aussi, mais à un degré différent. Il a totalement déserté nos sociétés, Romain Huette.
C'est-à-dire que vous voulez dire
qu'aujourd'hui, ça ne représente, en dehors des films, c'est une expérience qui est extrêmement rare.
Oui, qui est plutôt abstraite, qui est plutôt éloignée.
Tout à fait.
Dont les générations, d'ailleurs, des jeunes qui sont partis en Syrie, n'avaient absolument aucune expérience.
Tout à fait.
Donc, évidemment, c'est le retour, peut-être, de motifs un petit peu romantiques sur la guerre qui sont en train de ressurgir, probablement, et qui ont intéressé un certain nombre de personnes en France et ailleurs, mais qui peuvent saisir assez facilement, me semble-t-il, un homme qui est placé dans un certain nombre de conditions un petit peu particulières, notamment à mesure que l'on vit des vies sans relief, un peu monotones, dépourvues de toute intensité, à mesure qu'on est en train d'accomplir chaque chose au quotidien dont on n'en voit pas trop effectivement le sens. Ce genre de choses est évidemment réglé dans le moment de la guerre, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il s'ouvre quelque chose d'un point de vue existentiel quand on s'engage dans une guerre, comme si...
Tout d'un coup, une expérience du sérieux. Du sérieux.
Et puis, vous devenez quelqu'un. Du sérieux, et vous devenez quelqu'un. Dans un tout autre contexte, je raconte souvent cette anecdote parce qu'elle m'avait énormément touché, mais pendant la révolution ukrainienne à Maïdan, je m'étais rendu sur la place Maïdan pour me faire cuisiner, pour observer le moment
révolutionnaire. Vous avez fait des expériences intenses, ou alors?
C'était une manière de l'approcher. Et puis, là encore, j'ai posé une question de sociologue un peu bête au responsable du bâtiment occupé sur la place, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me dirais pour me convaincre de participer à la révolution? Imaginons que j'hésite encore à m'engager. Et puis, il me regarde, et puis il me dit, je pensais qu'il allait me dire, regarde Yanukovych, regarde la corruption, enfin, qu'il allait me sortir toute une série d'arguments qui justifieraient l'engagement dans la guerre. Et là, la seule chose qu'il me répond, il me dit, viens, tu verras, demain tu reviendras. C'est-à-dire, couper, éplucher des patates, éplucher de l'ail, soudainement, en fait, ce petit geste anodin, dans lequel j'exprime pas grand-chose dans ce geste-là, mais finalement, en fait, il se met à avoir un sens extrêmement important. Alors que j'ai été habitué à poser des actes dans le quotidien, globalement en fait, sont relativement insignifiants, voire n'expriment pas grand-chose de moi. Là, soudainement, ici, je suis en train de poser des actes qui prennent un sens dans le réel, voire même, quand on veut encore romantiser davantage cela, on devient sujet de l'histoire, alors qu'on était des écrasés de l'histoire. C'est-à-dire on participe à une grande aventure.
Oui. Surtout que c'est de là que vous partez, c'est de là d'où procède votre démarche intellectuelle, Romain Huette. C'est-à-dire que vous partez de cette idée de la souffrance, de la précarité, de vie insignifiante. Et c'est intéressant que vous avez fait ce travail, cet intérêt pour la souffrance sociale, pour la domination sociale, vous conduit à ce type de théâtre et de
terrain. J'en étais moi-même étonné, en fait, parce qu'au départ, bon, j'ai travaillé sur le suicide à partir de l'examen des récits de beaucoup de personnes qui exprimaient, éprouvaient cette profonde lassitude envers la vie. Et progressivement, je me suis tourné vers ce terrain-là, vers ce sujet-là. Et effectivement, le lien me paraît assez clair, c'est que un des fondements, c'est pas exclusif évidemment, mais un des fondements de l'engagement et de l'enthousiasme que l'on peut d'ailleurs ressentir dans l'épreuve révolutionnaire, voire dans l'épreuve guerrière, c'est fondé sur le sentiment que la vie est injustifiée. C'est fondé aussi en fait sur cette décoloration de nos existences, de cette impossibilité finalement de faire de nos vies des des œuvres en fait concrètement, c'est-à-dire des moments qui, des gestes qui ont un sens et qui façonnent le monde et qui.
On comprend que vous aimiez l'homme révolté de Camus parce que dans le fond c'est le message de Camus, c'est ça la pensée de midi pour Camus, c'est qu'il faut allier ce sentiment de révolte, cette inacceptation, ce refus d'accepter le monde tel qu'il est dans un acte de refus majeur et inaugural. Tout en consentant au monde, et c'est ça peut-être l'expérience de la guerre, c'est à la fois le refus politique qui fait prendre des armes, et une acceptation, comment dirais-je, qui s'impose à soi, qui est celle des objets, des armes, de la pesanteur, de ce qui vous tombe sur la tête.
Vous avez raison, enfin, j'aime beaucoup Albert Camus, et L'Homme révolté est un livre qui m'avait beaucoup touché, que je lisais à peu près au même moment où j'étais allé en Syrie, et il y a clairement en fait cette dignité hein, qu'il donne au moment de la protestation, cette dignité qu'il donne à la révolte. Et il y a cette idée aussi que, et surtout dans l'expérience révolutionnaire, c'est un désir de monde, c'est en vouloir au monde, en vouloir à ce monde-là, et en vouloir avec une passion qui est parfois assez dévorante. Et donc on fait de l'expérience révolutionnaire l'expression d'un désir de monde. Un désir de monde dans lequel, évidemment, un monde autre, dans lequel la vie est peut-être...
Vous avez prononcé le mot de dignité. Et c'est intéressant parce que vous le prononcez à la fois en France et en Syrie, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire la dignité ou l'indignité ou l'absence de dignité de vie ordinaire chez nous qui prend des formes nouvelles et d'ailleurs très préoccupantes, à mon avis. Et cette revendication qui est très nouvelle, hein, celle de la dignité humaine, qui n'est pas du tout dans le répertoire marxiste ou révolutionnaire d'autrefois. Et c'est un mot qui revient aussi beaucoup chez les Syriens combattants qui disent qu'on n'avait pas le choix tellement on était humiliés.
Mais c'est évident que la question de la dignité intervient très très souvent en fait dans des moments de révolutionnaires. On peut se battre pour des conditions matérielles, on peut se battre pour des choses de la sorte, mais on se bat aussi en fait pour cette question de la dignité, pour qu'elle soit rétablie avec ces célèbres phrases qu'on dit toujours en fait. Hein, il vaut mieux vivre, il vaut mieux mourir debout pardon que vivre à genoux. Ce sont des phrases qu'on entendrait dans plein d'autres contextes, pas seulement celui de la Syrie.
D'accord. Et alors, ça m'amène à parler d'un autre de vos auteurs auxquels vous référez, Fischbach, sur la reconnaissance. Est-ce que tout cela, est-ce que cette réflexion, alors dans cette situation extrême de la guerre, cette situation extrême du combat et de la proximité avec la mort, nous ramène pas aussi chez nous sur les formes nouvelles d'indignité et sur la nécessité, j'ose pas employer le mot politique de la reconnaissance, mais des formes sociales de la reconnaissance. Est-ce qu'on n'a pas, notre modernité, Romain Huette, n'a pas oublié la nécessité de sécréter des formes sociales de reconnaissance, n'a pas oublié la nécessité même de cette reconnaissance sociale?
Je pense que effectivement c'est une des portes d'entrée, c'est-à-dire que la généralisation du mépris social, les difficultés à faire reconnaître à la fois la singularité de nos vies et la singularité de nos qualités, eh bien a tendance peut-être à boucher les horizons de beaucoup d'individus et au fond finalement il me semble puisqu'on parlait des djihadistes tout à l'heure, il y a peut-être justement ce désir, cette nécessité finalement de retrouver une certaines valeurs sociales, et quand vous rejoignez l'État islamique, vous imaginez que vous rejoignez l'ennemi international, l'ennemi notamment de ceux qui vous ont humilié auparavant.
Et de participer à la construction du califat, d'un nouveau califat, et donc de devenir un acteur de l'histoire.
De devenir un sujet de l'histoire extrêmement majeur, qui ne rêve pas d'être un sujet de sa propre histoire, de sa propre époque.
Et est-ce que c'est pas d'ailleurs une question qui se pose aujourd'hui dans la France de 2019, Romain Huette ?
Moi, j'imagine qu'en ce moment, ce que les Gilets jaunes sont en train d'accomplir, c'est aussi évidemment pas seulement une demande de visibilité, mais effectivement quelque chose d'encore un peu plus supérieur que...
En tout cas, merci beaucoup pour ces réflexions. Merci Romain Huette.
Merci Antoine Garapon.
Matière à penser, Romain Huette, Jean-Michel Bernaud, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et demain, je vous donne rendez-vous avec Armat Yacoub pour parler de Boko Haram qui nous déplacera un peu dans l'Afrique. À demain.